Bonjour. Inertie, c'est un roman, on va le dire tout de suite, qui est bouleversant. On ne sort pas indemne de la lecture de ce livre-là. Retourner le lecteur, c'était votre but quand vous avez commencé à écrire Inertie ?
Non, en fait, mon but, c'était de ne pas devenir Béa.
De ne pas devenir Béa, parce que Béa, ben, c'est l'héroïne de ce livre, sans en dévoiler trop. Béa, c'est une cadra, agoraphobe, dépressive. Elle a tout perdu, hein. On comprendra au fil des pages les événements qui ont précipité sa chute. Elle vit grâce aux services sociaux, dans un immeuble dont les habitants forment une galerie de personnages secondaires. Montrer comment, en perdant son boulot, tout peut s'enchaîner. Montrer à quel point la chute, finalement, elle peut être rapide et violente, c'était ça que vous vouliez éviter pour vous-même et puis montrer à vos lecteurs ?
En fait, je voulais montrer tout d'abord peut-être à quel point un petit événement, parce que finalement, ce qui l'a fait chuter est un petit événement. Quelqu'un d'autre l'aurait peut-être pris d'une manière totalement différente. La chose qui l'a fait chuter est dite à la fin, donc on ne va pas en parler maintenant. Mais en fait, cet événement précipite sa chute et l'amène dans une spirale de totale autodestruction, en fait. Et elle s'enfonce, et à un moment donné, elle va quand même rencontrer quelques personnes qui pourraient être des personnes résilientes, mais il se trouve que dans ce cas-là, les choses ne sont faciles pour personne, parce que ça se passe quand même dans une ville qui est en crise, dans un moment où tout autour d'elle semble s'effondrer. Et ce que j'ai aussi voulu montrer dans ce roman, ce n'est pas seulement la chute d'une personne, mais c'est un petit peu la chute totale un peu de notre société. Et comme souvent, en fait, on voit par exemple des bribes d'infos, des choses comme ça, et c'est vraiment de ça dont j'ai voulu parler. C'est l'influence aussi que peut avoir l'extérieur sur une personne, parce que quand on est en dépression nerveuse, en fait, on ne supporte plus rien. Ce n'est plus qu'on ne supporte sa propre vie, mais on allume la télévision, on a l'impression que le monde entier s'effondre et que le monde entier nous atteint.
Dans votre livre, personne n'est épargné. Il y a aussi toute la galerie des portraits des voisins de Béa, une famille africaine dont on se méfie un peu, alors que c'est quand même eux qui ont un peu plus le sens de la famille. Un couple de punks, des toxicos, la ménagère qui doit faire avec un mari qui perd son salaire au jeu. Et parmi tous ces personnages secondaires, il y a quand même deux qui vont bouleverser le quotidien de Béa.
Oui, il s'agit de Prune, une petite fille qui doit avoir dans les 4 ans, et de Fulvio, un ouvrier italien qui entre dans sa vie.
Donc deux rencontres qui vont bouleverser le quotidien. Ben, on laissera les lecteurs découvrir comment et pourquoi le 28 août à la sortie de ce livre. Vous parliez tout à l'heure de cette spirale dans laquelle Béa se retrouve, qui avait peut-être déjà un terrain favorable, on va dire, ou plutôt défavorable, parce que l'événement qui bouleverse tout et puis qui l'a fait vraiment perdre son statut, ses repères, sur quelqu'un d'autre, vous l'avez dit, il aurait peut-être eu une influence différente. La vie, c'est de la merde, on en mange une cuillère tous les jours, c'est une phrase qu'on peut lire dans votre roman. C'est ça un peu qui symbolise l'état d'esprit de Béa et puis de pas mal de personnages de ce livre finalement.
Oui, et je crois qu'en fait ça symbolise la vie de beaucoup de monde. Autour de moi, je rencontre beaucoup de personnes qui pensent ça, peut-être pas en ces mots-là, mais qu'ils le pensent et qu'ils disent le vivre, en tout cas.
Donc vous vous êtes fait porte-parole.
Exactement, oui.
On a parlé des gens autour de Béa. Il y a tout de même un moment dans le livre où vous évoquez la solitude. Elle vous fait peur à vous, ou est-ce que la solitude, c'est justement ce lien avec cette descente aux enfers, dans certains cas ?
C'est-à-dire que quand on perd son travail et quand on perd les moyens économiques, on n'a vite plus personne autour de soi. Parce qu'on ne peut plus rien faire, on ne peut même plus inviter d'amis à la maison, parce que faire un repas, ça coûte cher. On peut peut-être sortir 3 fois, boire un verre, mais en fait, à un moment donné, on ne peut pas laisser toujours ses amis payer nos verres. Donc, par pudeur, on finit par dire « Eh bien non, en fait, j'ai une lessive à faire. Je crois que je préfère rester à la maison. Il y a une bonne émission à la télévision, etc. »
Et pourtant, donc, manger seul, ce n'est pas intéressant, hein?
Non, Béa, ça ne l'intéresse pas du tout de manger seule.
D'ailleurs, elle ne mange pas, elle mange pour se nourrir, enfin, elle a plus aucun plaisir dans la vie. C'est vraiment une sorte de, comment dire, de routine entre les émissions à la télévision, le téléachat, les séries, l'achat de cigarettes de temps en temps. Il y a vraiment, on a l'impression qu'elle ne sait plus comment remplir ce temps qu'elle a à disposition.
En fait, elle végète, c'est ce qu'on appelle végéter. C'est-à-dire qu'elle est vivante, mais pas tout à fait. En fait, elle, oui, c'est ça, elle végète.